revirement de début d'année, puis il faut, faut se départir de ça pour pouvoir finir les matchs en gagnant nos matchs. Et c'est deux matchs qu'on menait par deux buts, là, contre des meilleures équipes en troisième période. Fait qu'il faut être en mesure de fermer le match.
Ben, ils l'ont échappé encore hier en prolongation. On est allé chercher un point, mais on avait la chance de gagner ce match-là contre les Devils. Marc Legault est là pour nous parler de ça. Salut Marc.
Salut Mario.
Qu'est-ce qui s'est passé? Où on l'a échappé?
C'est bizarre à dire, parce que ce match-là se dessinait vers une victoire des Sénateurs d'Ottawa, puis revirement. Effectivement, ça ressemblait beaucoup au match contre les Capitals de Washington, mm-hmm. match d'ouverture, alors que les Sénateurs aussi avaient une avance de deux buts, puis ils ont laissé filer ce match-là. C'est des choses qui arrivent. Craig Anderson n'est pas nécessairement à son meilleur depuis son retour de voyage dans l'Ouest, on va en convaincre. Par contre, moi, où est-ce que j'ai une grosse question, je te dis pas que ça a coûté le match. Mais je sais pas si tu as vu les images. Au début de la prolongation, 3 contre 3, Eric Carlson est sur la patinoire pour amorcer cette prolongation-là. Et là, les Devils du New Jersey mettent leur alignement. Et Guy Boucher ramène Eric Carlson au banc parce qu'il veut y aller le fameux matchage. Là, on veut jumeler certains joueurs contre certains joueurs. C'est pas à Guy Boucher à s'adapter quand tu as le meilleur défenseur de la Ligue nationale dans ton alignement. C'est à l'autre équipe à s'adapter, Mario. Et on a ramené Rick Carlson à 3 contre 3, là où il est le meilleur, là où il y a le plus d'espace. C'est le meilleur patineur des deux formations. Pourquoi tu débutes pas ta prolongation avec? Et ce qui est arrivé, c'est que les Devils ont marqué un but sans que Carlson n'ait l'occasion de mettre le pied sur la patinoire. On va devoir me l'expliquer, celle-là, je ne la comprends tout simplement pas. Et là, si les gens qui disent « ouais, mais ils reviennent d'une blessure, il est peut-être pas à 100%. » Il a joué 25 minutes hier, puis il a 3 passes sur 4 buts. Là. Fait que il était correct, tout allait très bien pour Carlson. Et on l'a tout simplement ramené au banc, c'est alors que c'est un contexte favorable pour lui, je ne comprends pas ça.
C'est-tu en train de dire que c'est la faute, dans le fond, de Guy Boucher s'ils ont perdu?
Ben non, ben c'est ça, je te dis, je sais pas, je peux pas dire si les Sénateurs auraient gagné ce match-là ou quoi, parce que on ne saura pas, évidemment, ça c'est hypothétique. Mais c'est comme si, écoute, les Patriots de la Nouvelle-Angleterre perdent par 5 points, ils sont à la ligne de 20, puis on décide de mettre le corps arrière numéro 2 au poste de corps. Tu vas y aller avec Tom Brady, puis si tu mènes la Série mondiale ou si tu mènes un match en 9e manche, puis tu as un bon releveur dans ton équipe au baseball, tu vas y aller avec ton releveur numéro 1. Donc, donne-toi une chance, je sais pas, puis comme je te dis, c'est un contexte favorable pour les Sénateurs. 3 contre 3, on l'a vu, Carlson peut être dominant dans cette facette du jeu-là, mais on a, tu sais, le fameux over-coaché, là, où est-ce qu'on a suranalysé quelque chose? Ouais. Je pense que Guy Boucher s'est laissé prendre au piège hier.
Peut-être juste un problème de lame de patin, là.
Non. Je pense pas.
Non, OK. Hey, penses-tu que les gens de la région aiment encore le hockey?
Ben, je sais plus. Je sais plus. Et puis là, c'est parce que je regardais les assistances du côté des Sénateurs d'Ottawa depuis le début de la saison. Évidemment, 17 009 spectateurs, match d'ouverture contre les Capitals, tout près d'une salle comble dans le nouveau Centre Canadian Tire. Évidemment, à nouveau, parce qu'on a camouflé des bancs. Mais par la suite, là, tu sais, 14 800 contre Détroit, 13 400 contre Vancouver, puis hier, 13 300 contre les Devils. C'est pas beaucoup de monde là, pour des matchs de la Ligue nationale de hockey. Ça, c'est juste du côté des Sénateurs d'Ottawa. Je regarde ce qui se passe du côté des Olympiques de Gatineau. Évidemment, le match contre l'Armada, le match d'ouverture a été annulé. Ce qu'on me dit, les gens qui étaient là, il n'y avait pas beaucoup de personnes d'une manière ou d'une autre. Mais depuis le début de la saison, il y a 4 matchs complétés à Gatineau. La plus grosse foule, c'est 1711, Mario.
Annoncé.
Pas beaucoup de monde.
Annoncé.
Ah non, exact. Oui, oui, tu fais bien de le dire. Annoncé, parce que pour je suis allé à quelques matchs aussi, puis tu as raison. Je suis pas certain qu'il y avait 1000 personnes au Centre Robert-Gartin. Donc ça, c'est du côté des Olympiques. Et même les 67 d'Ottawa. Écoute, il y avait plus de 5000 à leur match d'ouverture. C'était le 50 ans, donc il y avait des c'était un gros party. Ça, c'était correct. Mais les deux autres matchs par la suite, puis là, tu parles d'un gros marché quand même, là, le marché des 67. 1941, puis 1791 spectateurs. C'est pas beaucoup de monde. Donc les trois équipes dans la région ont de la difficulté à tirer. Puis tu te dis, est-ce que les gens commencent à délaisser le hockey? Qu'est-ce qui se passe? Ou, tu sais, on a souvent dit, regarde, les Lynx d'Ottawa au baseball qui ont quitté, à l'époque là, où est-ce qu'il y a eu les Renegades, les Rough Riders, souviens-toi, il y a même eu des clubs de soccer professionnels avant l'arrivée du Fury. Ça n'a jamais fonctionné bien longtemps parce qu'on a toujours dit que le marché ici n'était pas capable de supporter plusieurs équipes. Ben, sais-tu quoi? Je pense que ça commence à être le cas parce que je regarde le succès du Rouge et Noir d'Ottawa. On sait, toujours 25 000 spectateurs à chaque match. Et même le Fury cette année qui a attiré plus de 100 000 spectateurs pour la saison complète, des matchs de 6 000 spectateurs, ce qui est quand même très, très bien. Je me dis, est-ce que les gens ont les dollars nécessaires pour supporter plusieurs équipes en même temps? Force est d'admettre que si on regarde les chiffres en ce moment, je ne sais pas, Marc.
Écoute, Marc, c'est les magasins de rideaux qui vont faire de l'argent. Si on fait comme au Centre canadien Tire, on va mettre des rideaux.
C'est tout à fait, c'est une bonne
au Centre civique.
Les cons d'orange, écoutez, vous allez avoir une très, très belle retraite.
Stupidité de la semaine, hein, fini avec ça.
Oui, écoutez, si jamais vous voulez que vos enfants apprennent à bien compter, à bien mesurer ses distances, tout ça, ne les envoyez pas à Milwaukee. Pourquoi je te dis ça? C'est que le marathon de Milwaukee, au cours des deux dernières années, un marathon qui, normalement, devrait servir pour se qualifier pour le très gros marathon de Boston, c'est que l'an passé, vois-tu, on avait mis une distance trop longue. Donc, les gens avaient couru tout près d'un kilomètre de plus que le marathon, ce qui fait en sorte que les temps homologués n'ont pas pu être enregistrés pour, justement, le marathon de Boston. Mais cette année, on a réglé ça. Les gens ont couru 1,2 km de moins. On a mal mesuré encore une fois la distance du marathon de Milwaukee.
Ben, ils sont faits en moyenne.
De suite.
On a juste à faire la moyenne des deux années.
Ben oui, je sais, mais c'est pas comme ça que ça marche, malheureusement. Et c'est qu'il y a des gens qui s'inscrivent, Mario, qui réussissent un temps intéressant pour se qualifier pour Boston. Et finalement, ils apprennent 2-3 mois plus tard que, oubliez ça, votre temps n'est pas réglementaire parce que le marathon, c'était pas la bonne distance. Écoute, une année, c'est pas pire, là. Ça peut arriver. Écoute, l'erreur est humaine, mais deux ans de suite. Je pense qu'il y a quelqu'un quelque part que son fameux tape à mesurer, là, ça fonctionne.
Il n'est pas précis. Bonne fin de semaine, Marc.
Salut.